Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Voilà, bonjour Jean-Marc Benayem.
Oui.
Merci de nous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes à la brasserie
Lorraine,
voilà, place des Ternes. Voilà, merci. Juste pour un petit mot pour te dire que je suis très content que tu viennes nous parler un peu de toi et surtout de tes activités, hein, avec notamment, moi ce qui m'intéresse, j'ai trois choses, comme je te dis, ou quatre choses, je ne sais plus, j'ai été très interpellé par le fait que tu faisais des consultations, des thérapies en groupe, ça c'est intéressant, ensuite que tu étais un proche de François Roustan, et puis que là récemment tu es dans les neurosciences à fond la caisse, avec Dionel Nakache, et tu viens de sortir un livre. Bon voilà, mais dénie-moi un peu toi, qui es-tu, voilà, tu vois un mot, voilà, quelques mots.
Moi, c'est simple. En fait, quand j'ai été formé par Léon Chertoff, Didier Michaud, voilà, à l'hypnose, bon, c'était déjà en 81, 82, j'ai tout de suite trouvé que c'était ce qui me manquait dans la formation de médecin. Et j'ai commencé à réduire mon activité de médecine. Puis j'ai demandé des vacations à l'hôpital Ambroise-Paré. Donc j'étais là en médecine interne. Et puis ensuite, le centre de traitement de la douleur s'est créé. Et là, ils m'ont dit, vous pouvez venir. J'ai dit, bah, avec plaisir. Et on a été effectivement le premier centre de traitement de la douleur à l'hôpital Ambroise-Paré à Boulogne à pratiquer l'hypnose.
C'est vrai.
Et puis après, mais parce que pour moi, c'était juste un plaisir. Je n'avais pas d'idée de créer quoi que ce soit. Je trouvais que c'était tellement, que ça pouvait tellement aider ces patients douloureux chroniques. Je me suis dit, j'y vais. Et tout le monde m'a dit, oui, vas-y. C'était ouvert. Oui, ils n'ont pas bloqué. Bon, ok. Et ensuite, je me suis dit, l'enseignement de l'hypnose est quand même surtout dirigé vers la psy. Voilà, c'est-à-dire le psychologique, tout ça. Et moi, avec mes patients douloureux chroniques, je voyais des problèmes de côlon, des problèmes de céphalée de tension, de lombalgie. Alors je me disais, mais ça ne va pas. Il faut s'occuper aussi du corps, pas que de la tête. Et donc, je me suis dit, je vais donc ouvrir, mais j'ai mis du temps. Je vais donc ouvrir une formation, donc presque 15 ans après avoir été formé, et où on va parler du corps et de la tête, pas que
mais
des psys.
Tu as raison, parce que moi, à l'époque, j'étais avec Jean Gaudin, on était quand même sous l'ombre de la psychanalyse, quand même. On n'a pas trop le droit de citer. Hein.
Exactement. Et en voyant des patients douloureux chroniques chez qui c'était efficace, et puis des fumeurs qui arrêtaient de fumer, je me suis dit, mais c'est leur corps aussi, c'est pas que mental.
Bien sûr.
Bon, enfin voilà, le fait est que les deux sont mélangés. Et donc, je me suis dit, je veux bien ouvrir une formation, mais il me faut quelqu'un qui peut vraiment accompagner de manière forte, intelligente. Voilà, chercher un philosophe. Et je me suis dit, après avoir écouté François Roustan chez Léon Chertoff, à la mort de Léon Chertoff, il était là encore. J'ai sonné chez lui, il était pas loin, dans le 8e. Et je lui ai dit, j'aimerais ouvrir une formation. Il me dit, mais je ne suis pas médecin. Je lui ai dit, oui, mais ça m'est égal. Ce que vous dites, je trouvais ça trop intelligent, voilà. Et il m'a dit, laissez-moi 24 heures. Et sa femme lui dit, oui, vas-y. C'est les femmes qui décident toujours. Vas-y. Alors, le lendemain, il m'a pas dit, ok, c'est bon. Et donc, on a ouvert en 97 le premier cours, toujours pareil, en Brosse-Paré. Et puis après, je me suis dit, quand même, il faut, légaliser, mais voilà, que ce soit quelque chose de reconnu. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas un DU? Alors, j'ai sonné une première fac, ils m'ont dit non, d'accord, j'ai laissé tomber. Et puis je me suis dit, ah, mais je connais Pierre Coria, j'ai croisé Pierre Coria, chef de service d'anesthésie à la Pitié. Alors, j'ai dit, pareil, je sonne, et il dit, oui, mais oui, comme ça, on se connaissait à peine. Et il me dit, oui, oui. Il me dit, c'est moi le responsable des DU à la Pitié.
Impeccable.
C'est bon. Alors voilà, donc on est rentré là-dedans. Et voilà, ça s'est créé en 2000-2001. Ouais. Voilà un peu le parcours.
Mais c'est vrai qu'on te doit beaucoup parce que tu as eu beaucoup de chance. Mais il y a aussi le fait qu'il fallait quand même mettre ça en place.
Voilà.
Et institutionnaliser un peu l'hypnose.
Voilà, donc au bout de 5-6 ans, j'étais toujours le seul. Et puis après, hop, ça fait contagion à Bordeaux, à Nice, enfin un peu partout. Voilà. L'autre élément, c'était, tu me disais, les douleurs chroniques. Alors, les problèmes, les groupes de thérapie.
Oui.
Alors, j'ai essayé un peu tout. J'ai essayé chez Douleurs Chroniques, j'ai essayé. Et en fait, non, ça fonctionne bien que pour les addictions.
D'accord.
Oui, et j'ai tout tenté, mais lesquelles addictions? Eh bien, les troubles du comportement alimentaire et le tabac. D'accord. Finalement, dans des situations où la personne est comme envahie par quelque chose d'extérieur.
D'accord.
Tu vois, le tabac, la cocaïne, l'alcool, je mange trop, je bois trop, je fume trop. Donc une agression, si je puis dire, par la culture, par l'industrie qui veut vendre voilà, le tabac, etc. Donc je me suis dit, il n'y a que ça qui peut rassembler. Mais le reste était trop individuel.
Ouais,
donc
voilà,
on
ne
peut
ça.
Pas
d'accord,
faire un
d'accord.
travail correct.
Ouais, je comprends ça, d'accord.
Alors donc j'ai lâché, je n'ai fait que ça. Voilà pourquoi les groupes sont possibles, mais que dans les addictologie, absolument.
Bon, alors, et François Roustan, moi je me souviens de François Roustan, je l'avais invité à donner à un colloque à l'amphithéâtre Charcot, je raconte toujours ça. Alors, avec Jean Godin, on l'invite, alors il se pose, tu sais, il aimait bien, moi je connaissais un petit peu, mais il aimait bien un peu la joute oratoire, enfin. Et alors, il demande les 107 tonnes de personnes qui étaient là d'hypnose, alors que lui se faisait insulter par tous les copains psychanalystes, il faisait dit, incroyable, il prenait, j'ai vu des articles odieux sur, contre Roustan. Oui, donc on savait ça, et là il arrive, il se pose devant nous, et il dit, il nous fait un petit truc, une quinzaine de minutes, où en gros il dit, bon, c'est bien de faire des pauses des petits gars, mais si vous n'avez pas fait un peu de psy, ça va pas quoi. C'était un peu provocateur. Et au point qu'il y a quelqu'un qui s'appelait François Rendry, je ne sais pas si c'est toi qui est François Rendry, à la fin de l'intervention de François Roustan, il se lève et il raconte « Monsieur Roustan, Freud est mort, Lacan est mort, comment vous sentez-vous »
Provocation. Voilà. C'est passionnel. Hein,
non, mais c'est-à-dire que c'est vrai que Roustan, souvent, il aimait, moi j'ai plusieurs fois eu des interventions avec lui, il aimait bien un peu, pas la bagarre, mais voilà qu'on.
Oui, c'est vrai.
On sent. Alors, pas. Voilà, c'était.
Il a quand même beaucoup changé. Là, je pense que c'est dans les années 80, voilà.
Quand il venait de sortir son livre Influence.
Influence ou Qu'est-ce que l'hypnose, etc. Ouais. Après, quand il est venu dans la formation, même quand il avait dans la salle des personnes anciennement psychanalystes, etc., il n'y avait plus de rivalité comme ça.
Donc non, c'est tout
il
début.
S'en fichait. Il avait découvert l'hypnose, ouais. Il était émerveillé par les résultats. Donc quand je disais, le psychanalyse, il me dit non, laisse tomber, ça n'a plus d'intérêt. Donc pour lui, c'était dépassionné.
Ouais,
il
n'avait
pas du tout envie de comparer, de polémiquer.
Au début, il a dû prendre des coups quand même. Alors,
oui. Ah, mais de toute façon, il a été rejeté dès qu'on a su qu'il allait
comme
l'hypnose.
Chartok, d'ailleurs.
Comme Chartok. Incroyable. Pareil, moqué, ridiculisé. Oui, absolument, oui. Alors qu'aujourd'hui, on dit non, mais c'est bon, ils ont le droit, c'est la liberté, c'est pas le. Voilà, c'est pas le. Mais c'était quand même l'époque des emprises voilà, culturelles. Alors l'autre. C'était
oui, tu as beaucoup travaillé avec.
François Roustan,
voilà.
Alors François Roustan, sa puissance, c'était l'intelligence et la culture qu'il avait, ce qui fait qu'il pouvait comparer et expliquer ce que c'était l'hypnose. Et puis, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble pendant 20 ans, il a épuré, même les livres qu'il faisait, que tu as cités. Le texte, au début, il m'a dit, mais qu'est-ce que l'hypnose ? Il m'a dit, mais je relis ça, je dis, mais c'est illisible, c'est plein de verbiage, méchant, bizarre. Et petit à petit, il suffit d'un geste, ça s'est épuré. Et bien, il a fait pareil dans la thérapie.
D'accord.
La personne s'installait et il lui disait, vous sentez le fauteuil ? Oui, allez-y, devenez le fauteuil. Et après, il se taisait pendant un quart d'heure.
Ah, très bien.
Voilà, il disait, monsieur, vous êtes là ? Et le patient, il disait, oui, je suis là. Et non. Quoi non ? Non, je ne suis pas là. Vous n'êtes pas là, je vois bien. Il dit, mais si, je suis là. Il dit, non, vous êtes dans votre tête. Laissez-vous être dans vos pieds. Et le patient, troublé, bien sûr. Ah, il rentre dans son corps, si je puis dire. Et après, il ne lui dit plus rien. Il attend que ce soit assimilé, que ce soit intégré, qu'il quitte le mental, etc. Donc on a beaucoup discuté de ces aspects-là avec Roustan, et on a confirmé qu'effectivement, le déséquilibre provenait de ce que le mode pensée était tellement intense qu'il développait des phobies, des peurs, des « j'ai pas confiance en moi, j'arrive plus à dormir », enfin, tu connais tout ça, et les douleurs chroniques et les addictions, voilà, pour essayer de calmer le mode « je réfléchis trop ».
Lâcher prise un peu.
Mais oui, c'est ça, ce fameux lâcher prise. Alors l'idée, c'était de lâcher prise quoi ? De lâcher quoi ? Eh bien, après avoir beaucoup, beaucoup travaillé depuis de nombreuses années, j'ai fait comme toi, c'est-à-dire que j'ai écrit, et puis c'est mis dans un tiroir, j'ai écrit, je remets dans le tiroir. Puis un beau jour, je me suis dit, non, c'est dommage, j'ai sorti, après la mort de François, j'ai sorti, et je me suis dit, mais je peux rassembler toutes ces quelques pages à droite, à gauche. J'ai rassemblé, et finalement, ça a fait ce livre, c'est-à-dire, en particulier, sur l'instinct. Mmh. Voilà, ce livre d'Il Jacob, mmh. Une nouvelle voie pour guérir. Mmh. C'est-à-dire que, quand le mode pensée est dilaté, pour des bonnes raisons, parce que j'ai besoin de mieux comprendre, j'ai besoin d'analyser, parce que j'ai quand même souffert dans mon enfance, j'ai besoin de maîtriser, je voudrais être parfait, je voudrais zéro défaut. Et quand ce mode est amplifié, tous les troubles apparaissent. C'est-à-dire, ah, mais je voudrais maîtriser. Oui, mais tu ne peux pas maîtriser. Oui, mais je veux maîtriser. Oui, mais tu ne peux pas. Ah, mais je veux quand même. Et cette volonté de maîtriser l'immaîtrisable commence à créer des peurs, des phobies, parce que je me sens dans une impuissance. Je voudrais maîtriser l'avion. J'espère qu'il ne va pas tomber. Mais c'est sûr qu'il ne va pas tomber. Non, c'est sûr. Bon, on n'est pas sûr. On espère, mais on n'est pas sûr. Oh, non, mais moi, je veux être sûr. Ah non, monsieur, c'est pas sûr. Bon, mais je ne prends pas l'avion. Et donc, toutes ces certitudes entraînent une série de pathologies. C'est sûr qu'il ne va pas me tomber un truc. Bon, mais je ne sors pas, etc. Donc, finalement, les pathologies apparaissent quand la personne amplifie son mode mental ou bien amplifie son mode confusion, comme dans l'autisme, bien sûr. C'est-à-dire où la personne est bloquée dans une sidération parce qu'elle a eu un trauma et reste comme ça figée. Ou bien c'est une partie de son corps qui est figée dans les douleurs chroniques, c'est-à-dire mon dos est figé, mon côlon est figé, mon épaule est figée. Donc c'est là toute la genèse des albodystrophies, des lombalgies, des céphalées de tension, voilà, qui s'installe. C'est une partie du corps qui est bloquée, paralysée, et toujours pareil, dans une idée de protection. Si je durcis mon corps, je me protège d'une éventuelle attaque, d'une éventuelle critique, d'une éventuelle... Et je dis, c'est un système de défense. Oui, d'accord, mais ça te pourrit la vie. Et donc, on travaille pour que la personne accepte, voilà, le lâcher-prise. C'est-à-dire, ils disent, oui, d'accord, en fait, ça m'encombre, donc je vais laisser tomber. Mais on a beaucoup d'échecs, parce que les personnes disent, ah non, non, c'est un système de défense, je lâche pas. Et on travaille pour que la personne dise, non, c'est pas un bon système de défense, il y en a d'autres. Et qu'elle accepte, c'est pas... oui, c'est aléatoire, absolument. Voilà un petit peu les échanges, et l'échange avec François, c'est on se voyait toutes les semaines, et souvent dans ce café aussi.
Ah, très bien.
Voilà, je suis là, et à Villiers, et des déjeuners, voilà, où on disait, bon alors, c'est quoi alors? Et il me racontait des cas cliniques. Et je racontais les miens, il me racontait les siens. Ouais, tu fais comment avec ça? Voilà, et j'en ai écrit plusieurs. Voilà. Dans ce livre, il y en a 5, 6 ou 10 de cas cliniques de Roustan. Et après, on approfondissait. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais peut-être au prochain cours, tu pourrais développer cet aspect-là. Voilà. Et les gens étaient fascinés parce qu'il a une personnalité. Voilà.
Oui, c'est sûr.
Fascinés en écoutant le maître voilà, qui a une expérience énorme et qui a une connaissance énorme des différents ouvrages, des différents auteurs, des différents courants.
Oui,
voilà. Donc, pour ça, il était fiable. Oui. C'était pas croyez-moi. Non. Tout de suite, on disait ok, c'est très profond, effectivement. Donc, je peux faire confiance. Et puis, son idée, c'était juste de transmettre. C'était pas, il disait, je ne voudrais pas être un maître. Je voudrais juste être voilà, quelqu'un avec qui on parle et qui transmet du savoir, mais pas un gourou.
Ça,
oui, voilà. Je ne veux pas qu'on se prosterne devant moi. Je ne veux pas qu'on m'adule. Tu vois, et, parce qu'il dit, ça ne va pas, ce n'est pas correct. Qu'on apprécie mes bouquins, voilà, ok, mais pas qu'on me respecte comme si j'étais au-dessus des autres, ça va pas. Alors que souvent, les humains, ils ont envie d'avoir un gourou, un maître, devant qui se prosterner, créer une secte.
Oui, malheureusement, parfois, c'est ça.
Oui.
Bon, d'accord, bah, c'est très intéressant. Et alors, tu viens de sortir un livre, et surtout, parle-moi un peu de ton dernier livre, et aussi de tes... ta collaboration avec Lionel Nakache sur les neurosciences. Mais...
Alors voilà, pour ajouter sur ce livre, on voit aussi toute la genèse des pathologies. Par exemple, nous avons trois modes. Le mode mental, je réfléchis, j'analyse, ils sont tous très bien. Hein. Le mode mental, j'analyse, réfléchis, je comprends, je déduis, j'anticipe. Il faut bien que je réfléchisse, je vais partir en vacances, où, quand, comment, indispensable. Le mode confusion qui est au centre. Ça je ne l'avais pas vu comme ça. Hein, ouais, pourquoi pas. Donc ça trouble. Et le mode corps sensoriel, où je suis dans le corps et je ressens la chaise et je ressens le fauteuil, je ressens l'espace, est-ce que je me sens bien en sécurité. Un peu comme si on disait tu te sens bien avec cette personne, cette épouse ou cette compagne. Oui, alors écoute, oui, elle est riche, elle est voilà. Non, ça, ok, mais comment tu te sens? Pas comment tu réfléchis. Ah, mais si, j'aime bien ça à présent, je me sens aimé, voilà. Donc ce mode sensoriel, il est indispensable pour nous et pour nos patients, bien sûr, pour savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je me sens en confiance, dans une bonne relation. Et les pathologies apparaissent quand un de ces modes se dilate.
D'accord.
Voilà, c'est simple. Le mode pensée augmente pour plein de raisons. Ben, j'ai beaucoup souffert, donc je veux prévoir tout, etc. Et ça y est, les peurs arrivent, je n'ai pas confiance, je me regarde, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis capable, est-ce qu'on va m'aimer, enfin, l'enfer. Le mode confusion augmente, oui, alors je ne sais pas, non, je suis prostré, je n'ai pas de réaction, je me protège, je suis impassible. En plus, j'ai vécu un accident traumatique, j'ai été abusé. Non, les hommes, j'en veux pas, j'ai trop souffert, donc je reste bloqué, j'ai pas de plaisir, pas d'orgasme, pas d'envie, pas de... Voilà. On voit ça aussi, bien sûr, dans l'autisme, où les enfants arrivent et ils sont absents. Ils sont pas dans leur corps, d'ailleurs même les collègues qui travaillent avec les enfants autistes, ils viennent, ils tapotent, ils mettent de l'eau froide, il faut que la personne retrouve son corps, ils les surprennent, ils les plongent dans des bains froids pour que l'enfant réagisse et qu'il ne soit pas comme ça prostré, immobile, figé. L'autre mode voilà, qui peut se déformer aussi, c'est si je suis trop dans l'imagination. J'imagine... T'es là ou t'es pas là? Non, je suis en train de rêver, je suis dans les nuages. Oh, tu reviens ou quoi? Non, attends, je me dis que je suis en train d'imaginer une promenade. Peut-être je délire à force, j'ai pas les pieds sur terre. Donc quand un de ces deux, de ces trois modes se dilatent, les pathologies s'installent. L'idée c'est que si le thérapeute sent, mais il est où ce patient? Ben il est en train de trop réfléchir. Eh bien, au lieu de lui dire non, arrêtez de rêver, non, il dit attendez, vous n'êtes pas dans votre corps. Ben non, un peu comme un sportif. Il va jouer au tennis, par exemple. S'il se pense, alors est-ce que mes chaussures machin, est-ce que l'adversaire est plus fort? Ben si, il est fini. Alors, il faut son coach lui dire non, mais c'est bon, tu rentres dans ton corps, pas dans ta tête. Allez, ça suffit, descends. Et s'il descend dans son corps, ben, il ne pense plus. Donc tout ce qu'il imaginait comme nos trucs horribles disparaît, il est dans ses muscles. Et bien c'est la même chose que nous devons faire avec nos patients, me semble-t-il. Enfin c'est ce que je fais depuis des années. Et ils me disent, mais ça fait longtemps que je n'ai pas relâché. Et les hypnothérapeutes le font même souvent instinctivement, sans même avoir repéré que la patiente vient de quitter le mode mental. Il est présent dans le siège, dans ses épaules, dans les bras. Et le corps étant présent, toutes les peurs sont gommées, alors que la personne était sous l'emprise d'une obsession, d'une angoisse, d'une anticipation anxieuse. Et c'est ça qui change, c'est que la personne trouve un autre chemin, qui est le chemin de l'équilibre. C'est-à-dire le mode mental redescend, alors le mode pensée descend, la confusion s'en va. Et puis c'est très proche de l'hypnose. Puisque, n'est-ce pas que toi, par exemple, en tant que soignant, lorsque tu vois un patient qui a des croyances, qui dit, par exemple, qui dit le tabac, c'est mon ami, etc., tu cherches quelque chose qui va le troubler. Donc, il est dans une croyance, et tu dis, c'est pas votre ennemi, plutôt. Oui. Vous avez des ennemis, vous avez des amis qui vous font du mal? Ah non, je ne les garde pas. Ah Et ça, il met une confusion. Donc le mot de confusion est utile pour perturber une croyance et que la personne puisse passer de l'autre côté et dire oui, effectivement, bon, alors je vais me séparer d'un ami qui me fait du mal. Par exemple, un peu caricatural.
Oui, oui, oui.
Voilà. Mais ce mot de confusion est complètement utile pour traverser et pour aller d'accord, dans le corps qui d'accord. a été négligé, méprisé. Voilà. Oui, mais l'alcool me sert beaucoup pour calmer mon stress. Oui, d'accord, mais tu as une cirrhose, tu as un machin. Oui, d'accord, mais ça me sert. Comment je vais calmer mon stress? Donc il faut que la personne voit l'alcool comme un mauvais médicament, efficace, hein, mais beaucoup d'effets secondaires, et qu'il puisse dire oui, effectivement, beaucoup d'effets secondaires. Et c'est toujours en vente? Oui, effets secondaires beaucoup, mais c'est toujours en vente. Mais peut-être il y a une autre façon de calmer le stress, monsieur. Et l'hypnothérapeute lui explique, et ben voilà une façon de calmer le stress. On y va. Comment vous vous sentez? Ah ben oui, là je me sens bien. Ben voilà, vous allez faire de l'auto-hypnose, et là il n'y a pas d'effets secondaires.
Oui, enfin voilà.
Ben voilà. Voilà un petit peu les objectifs.
Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est...
Alors après la rencontre avec Lionel Nakache, c'est simple. C'est parce que dans le DU se fait à la Pitié-Salpêtrière, et quelques bâtiments à côté, il y a les neurosciences, voilà, qui sont développées. Et en fait, c'est Pierre Coria qui m'a dit que tu devrais faire intervenir Lionel Nakache, parce qu'il est vraiment très bien. Il a... Ah, je lui dis, ben, ok. Donc... je le rencontre, il vient donner des cours tous les ans à la Salpêtrière. C'est bon, tu gères? Ok. Merci. On se quitte pas, nous.
Et pour vous, c'est bon comme ça ou...
Très bien, tenez sur les règles. Merci.
C'est bon?
Oui, très bien.
Alors, voilà, on attend.
Donc tu es allé voir Lionel Nakache.
Donc on lui a demandé de venir faire un cours sur...
Ah, on va te voir.
Oui. Il faisait un cours d'une heure et demie, tout, voilà, une fois par an.
Merci.
Une fois par an pour nous expliquer comment fonctionne la conscience, voilà, puisque c'est ça son objet, son idée. Et puis un jour, voyant que je m'intéressais à l'hypnose, et puis il voulait voir des liens avec l'hypnose, il me dit, il me semble qu'effectivement avec l'hypnose, on peut certes faire qu'une personne retrouve sa présence, sa sensibilité, mais il me dit, mais on doit pouvoir faire l'inverse aussi. Je lui dis, oui, on peut dissocier. Alors il me dit, on peut dissocier. Alors il me dit, oui, tu viendrais faire une étude avec moi? Je lui dis, oui, si tu veux. Il me dit, voilà, tu vas me trouver des patients et tu vas faire en sorte qu'ils n'entendent plus. C'est-à-dire, tu leur induis une surdité. Je lui dis, ouais, d'accord, on peut toujours tester, on verra. Je lui dis, on est sûr de rien, mais bon, on y va. Je lui trouve une patiente, mais exceptionnelle, parce que je la sentais très suggestible pour les
bien
études,
sûr,
il vaut mieux, voilà, pas très suggestible. Et puis, il se trouvait que dans sa famille, il y avait des personnes, des grands-parents, qui avaient un problème de surdité assez intense. Mais je l'ai su après. On l'installe. Il lui met une électroencéphalogramme, voilà, sur toutes les électrodes sur le crâne. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben maintenant, à partir de maintenant, madame, je vais tapoter sur votre main et vous allez devenir sourde, une surdité. Je ne pouvais plus lui parler puisqu'elle était sourde. Donc, j'étais juste obligé de lui dire, et maintenant, vous entendez. Et lui, il lui faisait entendre un bip. Bip, 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 pour voir. Et puis, il regarde dans l'électroencéphalogramme. Et puis au bout d'un moment, il me regarde en écarquillant les yeux, il me dit, il y a une onde qui s'est effacée. C'est-à-dire une onde qui interprète le bruit. Ah oui, ce bruit vient de la machine, qui, etc. Hop, elle a disparu. Au lieu de faire comme ça, tac. Donc la personne entend, parce que le tympan, il vibre toujours, mais elle n'interprète plus.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, exact. Oui, on peut entendre
oui,
sans
oui.
entendre.
Oui,
c'est
voilà.
pas un truc incroyable.
Ouais.
Voilà, si un enfant regarde la télé, je te parle, mais il n'entend pas. Voilà, il est capté. Donc, où est-ce qu'elle était captée? Je ne sais pas. Donc, voilà. Mais lui, il avait une objectivation qu'effectivement, si j'induis la surdité, elle peut venir. OK. Et puis, finalement, il a mis cette étude dans un tiroir et un collègue neurologue, Esteban Muñoz, est réapparu voilà, il y a 2-3 ans, en disant « Cette étude m'intéresse », alors Lionel Nakache l'a sortie du tiroir, et hop, ça a été publié.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
C'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'était intéressant de voir comment les phénomènes de conscience pouvaient expliquer encore un petit peu mieux, et en particulier un espèce de paradoxe qui est finalement, que tu connais, voilà comme tous les hypnothérapeutes, c'est-à-dire finalement c'est pas la conscience qui nous intéresse, c'est comme disait Erickson, c'est-à-dire c'est plutôt le subconscient, c'est plutôt l'inconscient, c'est-à-dire c'est là qu'il y a les ressources, c'est-à-dire presque l'animal, voilà. L'animal il fume pas, il dit pas tiens ça me plaît, voilà. Donc finalement c'est bien parce qu'il est complètement avec son corps qui ça n'intéresse pas. Et donc l'objectif dans la thérapie, moi Erickson le dit très fort, très intelligemment, en disant l'objectif c'est que de réveiller quelque chose qui était en rivalité avec le cerveau, qui avait des envies, des croyances, des habitudes, machin, de réveiller quelque chose qui est presque un instinct de sécurité pour que la personne dise ah oui d'accord je suis mal placé, oui ok ça je lâche, oui ça je lâche plus, oui ok ça ça m'intéresse plus, ou cette haine ne m'intéresse plus, cette colère ne m'intéresse plus. Donc il va digérer quelque chose parce qu'il a des ressources qui lui disent allez vas-y tourne la page. Donc finalement ce qu'on active avec l'hypnose, c'est pas la conscience, c'est la non-conscience, c'est-à-dire les ressources qui sont en dessous. Et c'est pour ça qu'Erickson il demandait à ses patients, mais est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose d'intéressant, vous avez pu dire non, est-ce que vous êtes déjà séparé de quelqu'un qui vous embêtait, est-ce que donc il cherche du vécu, pas il faudrait que tu, on s'en fout, ça marche pas, mais du vécu où la personne dit ah oui, j'ai déjà dit non, ah oui, j'ai déjà laissé tomber, ah oui, j'ai déjà tourné là, ah oui. Allez-y, monsieur, retrouvez ce moment où vous avez dit non, retrouvez. C'est vécu, c'est ressenti. Puisque la compréhension intellectuelle, bon, d'accord, c'est une étape, mais elle ne sert pas pour changer. Après, il faut l'autre étape où la personne va intégrer. On faisait des exercices comme ça avec François Roustan. Quand la personne disait, il y a quelque chose qui me revient tout le temps, qui m'obsède, il dit oui. Eh bien, prenez cette chose, patient sous hypnose, hein, prenez cet élément, mangez-le. Oui, mangez-le. Le patient, il mange. Broyez, voilà. Laissez revenir dans votre corps, on n'expulse pas. Alors le patient, oh là, que je me sens bien, Ah oui, effectivement. Ah là là, mais quel soulagement! Il sort un peu de la transe et dit est-ce que ce bien-être va durer? Il dit là monsieur, ce que vous venez de dire, mangez-le aussi. Il a vu l'intelligence, il a vu que quelque chose réapparaissait de l'ancienne façon.
Oui, tout à fait.
Il a vu l'attention qu'il avait. Et c'est aussi comme tu disais qu'il se laisse pas faire par le patient. Tu vois, et d'où l'espèce de possibilité d'intervenir. Tu vois, il ne se laisse pas faire en disant ah ben oui, j'espère. Non, ça veut dire que je suis écrasé par ce qu'il vient de dire. Donc il dit là ce que vous venez de dire, remettez-le dans le corps. Du coup, le patient, il est calmé.
Oui, c'est vrai qu'avec Erickson, on a quand même. Il le disait de façon un petit peu caricaturale. Finalement, l'hypnose en elle-même est thérapeutique, c'est qu'en fait, c'était les ressources du patient qu'il fallait mobiliser. Et le traitement ne vient pas de ce que va dire le thérapeute, mais le thérapeute, il va troubler pour permettre aux gens de mobiliser leurs ressources.
Et puis il appuie sur l'endroit qui arrête le problème, qui stimule un autre.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Du coup, le patient, maintenant, à chaque fois, il a été marqué par cette phrase, enfin, j'espère. Oui. Et à chaque fois qu'il va repenser, il va dire « Ah ok, je mange, il m'a dit tu manges, je mange. » D'ailleurs, c'est après que j'étais bien, donc c'est bon, c'est du vécu.
Bon, enfin, voilà. Non, mais c'est vrai que
c'est des anecdotes, mais qui sont intéressantes, parce qu'il a toujours décrit les histoires avec une vérité. Il ne les transformait pas pour se mettre en valeur. Tu
non,
vois.
Non.
Non, il dit ce qui s'est passé vraiment, et de ce fait, on pouvait travailler après là-dessus. Tu vois.
Et toi, ta pratique aujourd'hui, alors, c'est ça, en fait tu...
ben, ma pratique, c'est ça, oui. J'essaye de simplifier, de faire en sorte que ce soit bien le chemin du patient. Pas un protocole figé, mais bon, dans t'en doutes, et que ce soit tellement adapté à la souffrance du patient et aux ressources du patient.
Voilà, voilà.
L'idée générale, c'est quand même ça, c'est-à-dire la plupart des patients qui viennent me voir, parce que je ne les vois pas à l'hôpital psychiatrique avec l'autisme, ça je ne les vois pas ceux-là, mais la plupart des patients qui viennent sont des patients qui pensent trop, qui ressassent, qui ruminent, qui sont obsessionnels, voilà, qui regrettent le passé, qui pensent à des deuils, qui n'arrivent pas à digérer les deuils, enfin tu vois, ça tu les connais. C'est ceux-là qu'on voit en ville, à l'hôpital, en psychiatrie, on doit voir aussi d'autres qui sont borderline, qui sont, voilà. Mais avec cela, c'est simple, hein, le mode pensée est tellement dilaté que le travail consiste par des exercices, bien sûr, à faire en sorte qu'il n'y ait plus cette emprise, puisque voilà, François disait, ça là, remettez-le dedans. Si ça reste dehors, ça vous domine. C'est ce que disait Hegel. Il disait, la pathologie, c'est quand le problème est extériorisé et qu'il se met à dominer la personne. D'où l'idée de le réincorporer et de dire, t'as quoi devant? J'ai plus rien. Si, je vois la rue, j'ai un ami, je vois le soleil. Alors qu'avant, il y avait ça qui je te voyais même pas.
Alors c'est ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai noté cette phrase.
Ah, vas-y.
Oui, c'est une très jolie phrase, mais c'est ce que, qui résume, pas qui résume, on ne peut pas résumer. Mais tu dis, trouver un autre chemin, virgule, celui de l'équilibre. C'est ça? C'est exactement ce que tu dis.
Voilà, exactement.
Oui, c'est ça, c'est l'histoire.
Et qui vient... voilà, c'est ça. Et pour le thérapeute, c'est bien parce que, comment dire, il a perçu quelque chose. Et le patient, il sent qu'il a perçu. Par exemple, quand le patient arrive et te dit « Je suis dominé par une peur, je ne dors plus, j'ai du mal à supporter d'avoir perdu mes parents, enfin bon, des drames aussi. » Eh bien, si toi, tu es là, tu interviens et tu dis « Ah, mais vous pensez trop. Ah oui, comment vous savez ?» C'est sûr que c'est évident. « Ah, mais c'est comme ça depuis l'enfance. » Hier, il y a une jeune femme qui me dit, j'ai vu un médecin neurologue, elle me dit, j'ai un petit kyste dans la glande pinéale, mais ils m'ont dit, c'est bénin, madame, elle a 30 ans, c'est une dentiste, c'est bénin. Alors, il lui dit, ah d'accord, super. Elle en a vu un autre qui a dit, ah, si vous êtes enceinte, c'est possible que la glande grossisse. Ouais, ça y est.
Ah oui, la pauvre.
Voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Visiblement, ce neurologue ne connaît pas l'hypnose. Et donc, elle vient me voir en disant, j'en peux plus, j'ai ça en tête tout le temps.
Ah oui, évidemment.
C'est logique.
C'est vraiment en tête en plus.
C'est vraiment doublement en tête. Alors, je lui dis, mais est-ce que le verre n'était pas déjà plein? Parce que toi, tu pourrais dire, oui, bon, ok, il dit n'importe quoi, il est un peu nul ce mec, et tu évacues. Elle, non, elle me dit, oui, le verre était déjà plein, parce que mes parents ont divorcé, parce que c'était une insécurité à la maison, parce que, ouais, tu vois, il dit, parce que sinon, on s'en fiche. Mais là, il était déjà plein, et tac, une goutte de plus, et ça déborde. Et je lui dis, elle me dit, comment vous savez? Je lui dis, sinon, ça déborde pas. Je lui dis, là, c'est plein. Je lui dis donc, on va travailler non pas ce problème, mais le fait qu'il était plein, de quoi il était plein.
Oui.
Voilà. Et du coup, voilà. Et donc, c'est ça l'équilibre, c'est de vider quelque chose qui s'est accumulé et que je n'ai pas digéré. D'où les propositions thérapeutiques bizarres de dire, eh bien maintenant, il faut digérer.
Oui, c'est vrai.
Allez-y.
C'est vrai.
Tu vois, c'est con. Les mots digérer, on pense c'est mental, c'est physique.
Ouais, c'est vrai.
Ça me reste sur l'estomac, on dit des trucs
c'est
comme
vrai,
ça.
Oui, tout à fait, il y a un lien très fort.
Voilà, donc on lui dit,
notre langage,
vas-y, mange.
Tout à fait.
Et Roustan, qui n'est donc pas médecin, c'est-à-dire qu'il n'a jamais travaillé sur l'estomac, c'est ce qu'il disait tout de même, tu vois, la puissance du mec. Il aurait pu dire, non, moi c'est que le mental. Non, il a dit, digérer. Et donc cette personne n'a pas digéré le divorce, les disputes, les conflits qu'il y avait. Et je lui ai dit, si vous digérez, peut-être qu'il n'y aura plus de souffrance. Et on a fait l'exercice.
D'accord. Pour terminer, est-ce que tu as des projets particuliers ou...
Eh bien, je prends tellement plaisir à ce travail sur les trois modes que nous avons... que j'ai déjà envie d'écrire un suivant.
Très bien.
Mais bon, voilà.
Oui, ben...
Et puis peut-être de faire un congrès. Ah oui, il y a un autre point qu'il me passionne, mais ça, je ne sais pas, ça peut être polémique.
Mais si, c'est bien.
C'est la transmission de pensée. J'ai fait un congrès là-dessus.
Oui.
Voilà, tu seras bienvenue.
Non, mais je n'ai pas pu y aller.
J'ai un patient, un ancien patient, qui est complètement télépathe. Et donc, mais on l'a testé, parce qu'au début, je l'avais fait rencontrer avec François. On n'avait pas osé le tester de peur qu'il se sente pas cru, je ne sais pas, etc., douté, critiqué. Et un beau jour, je dis, j'en ai marre. Je le vois et je lui pose des questions et je veux savoir oui ou non. Effectivement, il devine des choses extraordinaires. C'est-à-dire, il m'a même envoyé un mail il y a quelques jours. Et peut-être, si on a le temps, il me raconte un cas clinique. Le voilà. Et un patient. Voilà le cas clinique. C'est une femme. Elle me raconte qu'un jour, j'ai vu que ses parents, donc que je ne connais pas, devaient changer la porte du garage. Ils ont fini par le faire parce qu'elle était trop ancienne, elle fermait mal. À leur retour du voyage, ils se sont aperçus que cette nouvelle porte avait été forcée. Mais vu qu'elle était neuve, bien solide, personne n'avait pu rentrer. Comment j'ai eu cette voyance, je ne sais pas. Alors, encore un autre, voilà, ce sujet. Il dit à un patient, il lui dit, je ne sais pas où sont mes bijoux. Franchement, aidez-moi, je ne sais pas où ils sont. Alors, il dit... Il cherche. Et il dit, ils sont dans une peluche. Oui, c'est un enfant qui a cru que c'était des jouets, qu'il a mis dans une peluche et il a fermé la peluche. Il cherche et il trouve les bijoux.
D'accord.
Un autre cas comme ça, il regarde le patient et lui dit, ah, votre père était en colère, votre père qui est mort, était en colère parce que vous avez perdu l'alliance qu'il vous a donnée. Un bijou. Non, il a dit un bijou. Un bijou qu'il vous a donné. Le patient a dit oui, il m'a donné son alliance, il la retrouve. Donc il lit dans les pensées. Et je voudrais simplement comprendre comment on fait, parce que nous aussi ça nous arrive,
oui,
de dire au patient quelque chose, il dit ah ben oui, comment vous savez que je suis du sud-ouest, etc. Par exemple.
Oui, ça c'est vrai qu'il arrive qu'on soit dans un groupe, et ouais, puis on se dit tiens, je vais parler de ça. Et puis l'autre, voilà, il y a une pensée, oui.
Voilà. Mais nous, on n'analyse pas.
Non.
On ne dit pas, ah tiens, il pense ça, donc je vais le dire. Non, c'est spontané, et par hasard, ça éclot.
Oui.
Voilà. Et j'aimerais savoir si c'est possible d'améliorer ces... Bon, ouais, c'est ludique.
Non, mais en tout cas, c'est intéressant.
Oui,
non,
c'est d'améliorer. Intéressant. Et puis savoir, mais par où ça passe. Pas pour faire le magicien, mais savoir, est-ce qu'on peut améliorer cette capacité intuitive d'avoir une perception. C'est juste pour aider nos patients, sinon ça ne sert à rien du tout. Je ne trouverai pas les numéros du loto. Hein, pas de problème.
Bon, écoute Jean-Marc, en tout cas, un grand merci. Un grand merci pour toi. Et puis on va...